Cet appel « N'ayez pas peur » est une très belle chose. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que cela se trouve 365 fois dans la Bible. « N'ayez pas peur ». Une fois par jour. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en gros, pourquoi pas, l'idée, elle est belle. Et c'est pour vous dire à vous, mes jeunes, mes catéchumènes, et à vous tous, pour vous dire à vous, que quelque chose que je vous dis à l'avance pour tous les jours de votre vie, pour cette année, pour toutes les années à venir, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur, vivez heureux, soyez tranquilles, ne vous faites pas de soucis, ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'Évangile lui-même nous invite à cela quand il dit en Matthieu 6, « Ne vous préoccupez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, vous verrez bien, il n'y a pas de problème. » Mais en même temps, des problèmes, pour moi, il y en a, parce que ce « n'ayez pas peur » ne me semble pas si simple. Tout d'abord, n'ayez pas peur de quoi? Et si on ne me dit pas de quoi, le « n'ayez pas peur » me terrorise encore plus. Quand quelqu'un vient me voir, ou si le médecin me dit « Surtout, n'aie pas peur », je me dis « C'est qu'il doit y avoir des raisons d'avoir peur. » Moi, quand on me dit « N'aie pas peur », j'ai peur. Voilà. Quand vraiment il n'y a pas de raison d'avoir peur, on ne me dit pas « N'aie pas peur ». Et donc, il faut regarder les choses en face et dire « N'ayez pas peur de quoi ?» Alors, je vais vous le dire. D'abord, ça peut être la peur de Dieu. Peut vous sembler bizarre, mais c'est en fait plus important et je vais vous soumettre une question que j'ai depuis des années. Je suis d'accord pour dire que le message de l'Évangile, c'est « n'ayez pas peur », mais en même temps, le nombre de passages dans l'Ancien Testament où l'on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, où on dit « heureux celui qui craint Dieu » est considérable. Et même dans le Nouveau Testament, le nombre de passages où on voit les disciples, dès qu'ils rencontrent Jésus, on nous dit « ils furent saisis de crainte ». Alors comment est-ce que l'on peut à la fois valoriser la crainte de Dieu comme quelque chose de remarquable, un objet de foi, et dire ensuite « l'amour parfait bannit la crainte » comme le dit la première épître de Jean. Alors, ça m'a longtemps interrogé. J'ai une hypothèse. Une réponse que je vous propose, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais j'ai une hypothèse. C'est qu'en fait, quand les disciples, il est dit qu'ils sont saisis de crainte dès qu'ils rencontrent Jésus, eh bien, ils avaient tort. C'était injustifié. Ce qui fait d'ailleurs que Jésus, sans cesse, dès qu'il les rencontre, il leur dit, la première chose qu'il leur dit, « N'ayez pas de crainte. » C'est moi, n'ayez pas peur. Et je ne vois pas un endroit dans le Nouveau Testament où on valorise le fait d'être dans la crainte ou dans la peur de Dieu ou de Jésus. Et du coup, mon hypothèse, c'est la suivante. C'est que dans l'Ancien Testament, on valorise cette idée de la crainte de l'Éternel parce qu'on avait une idée d'un Dieu redoutable, d'un Dieu terrible, d'un Dieu qui peut faire vivre ou mourir, d'un Dieu qui peut envoyer des tempêtes, qui peut envoyer la mort, qui peut envoyer des maladies, des plaies d'Égypte, qui peut envoyer des sécheresses et des tas de catastrophes. Et donc, on avait peur de Dieu. On avait peur aussi d'un Dieu de jugement, d'un Dieu qui peut vous envoyer en enfer brûlé avec des diables qui vous piquent les fesses. Pas marrant. Et en fait, Jésus, justement, ne va pas arrêter de dire « mais arrêtez d'avoir peur de Dieu ». C'est-à-dire qu'il y a un changement de théologie. Dans l'Ancien Testament, on a majoritairement un Dieu redoutable. Et dans le Nouveau Testament, il continue d'avoir un peu peur de Dieu, peur de tout ce qui peut arriver, peur de la nature, peur de la toute-puissance. Et Jésus leur dit « mais arrêtez, n'ayez pas peur, ne craignez point ». N'ayez pas peur parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et donc, il y a un changement de théologie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous l'ai lu, c'est probablement un des plus beaux versets du Nouveau Testament, 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte, et il n'y a donc pas de crainte en Dieu. Alors, passer de l'idée d'un Dieu sévère qui juge, d'un Dieu arbitraire qui domine tout, qui nous écrase de sa majesté, à l'idée d'un Dieu d'amour, de tendresse et de proximité, je crois que ça, c'est vraiment une des valeurs fortes du christianisme. Hein. C'est que vraiment, le christianisme prêche un Dieu de tendresse, un Dieu d'amour, un Dieu de douceur, et j'allais dire, Dieu sait si on en a besoin. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur de Dieu, au contraire. Il est votre meilleur ami, il est votre plus proche, il est votre soutien inconditionnel, il est toujours à votre côté. Et lui, il sera toujours celui qui vous défendra devant tout ce qui peut vous faire peur. Alors bon, je ne veux pas non plus opposer le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau. On a de nombreux passages aussi dans l'Ancien Testament qui dit « ne crains point ». Dans les prophètes en particulier, dès que Dieu s'approche d'un prophète, c'est ce qu'il dit « ne crains point ». Alors, le judaïsme considère que les prophètes valent moins que la Torah, c'est-à-dire que le début de la Bible. Nous, chrétiens, nous pensons le contraire et nous pensons que les prophètes et que les psaumes valent plus que tous ces passages d'un Dieu tout-puissant et redoutable. Mais du coup, je suis toujours gêné. Quand je lis les psaumes où il est écrit « L'Éternel », par exemple, comme dans le psaume 103, « L'Éternel est bon pour ceux qui le craignent ». Je dis non, je ne peux pas dire ça. Du coup, je modifie le texte et je dis « L'Éternel est bon pour ceux qui le cherchent ». Voilà, c'est mieux, c'est plus évangélique. Ou pour ceux qui le respectent. Voilà, comment on peut avoir une idée un peu adoucie de cette crainte de Dieu, c'est avoir pour lui une sorte de respect dans un Dieu qui est plus grand que nous. Et ça, c'est quand même pas idiot, parce que finalement, ce Dieu gentil, bon et doux, ce Dieu tendre, il est sympathique, mais c'est quand même pas votre pote. Si vous voulez, Dieu, c'est pas juste un copain sympa qui nous dit des paroles gentilles quand on est dans la difficulté. Il est quand même... Excusez-moi, Dieu est quand même le Dieu de l'univers. Il est quand même le créateur de toutes choses. Et si Dieu peut me sauver aujourd'hui dans toutes choses, c'est parce qu'il est puissant. Peut-être pas tout puissant, mais en tout cas puissant et respectable. Et donc, si Dieu n'est rien, si Dieu est tellement proche de moi qu'il devient juste un ami sympathique, un objet transitionnel, un doudou agréable... j'ai peut-être plus peur de lui, mais du coup, je risque d'avoir peur du monde. Ah oui, c'est ça, je risque d'avoir peur du monde matériel, du monde physique. Car voilà l'autre raison fondamentale de ce « n'ayez pas peur ». C'est peut-être pas juste pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce Dieu d'amour qui pourrait nous condamner, mais c'est de dire « n'ayez pas peur du monde ». Et en effet, si l'on a une foi comme celle que je proposais la semaine dernière, qui intègre la pensée scientifique, c'est-à-dire que si on a une foi dans la pensée magique, je crois en Dieu et il va m'empêcher de tomber malade, je crois en Dieu, il va empêcher ma voiture de tomber en panne, je ne sais quoi, bon, à ce moment-là, n'ayez pas peur, Dieu va tout gérer. Mais si on a une foi qui intègre la pensée scientifique quant au cours du monde, si l'on croit que Dieu n'est pas celui qui gère, en tout cas à court terme, les phénomènes physiques, matériels, météorologiques ou autres, du coup, j'ai peur de ce monde imprévisible. J'ai peur de cette nature qui peut m'écraser, qui peut me tuer du jour au lendemain. Et donc... j'ai peur du monde, et si Dieu n'est plus celui que je crains, je déplace ma peur vers autre chose, je n'ai plus peur de Dieu, mais du coup, j'ai peur de ce monde qui me fait peur. Alors, en quoi est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile peut néanmoins me garantir contre la peur du monde contre la peur de l'avenir. Et je crains, j'ai peur que justement cette peur de l'avenir soit quelque chose qui domine une partie de notre jeunesse. C'est vrai que dans la jeunesse, et je vous le souhaite, il y a une certaine insouciance, peut-être, sur certains points. Mais en même temps, beaucoup de jeunes ont peur de tout, et je le comprends. Peur de l'avenir, peur du réchauffement climatique, peur des changements sociaux, peur du chômage, peur de s'engager soi-même, peur de créer une famille, avec qui, quoi, comment, pour qui, pourquoi, quel avenir et comment, bref, peur de tout, en fait. Et je le comprends. Et donc oui, la peur est là. Et est-ce que ça sert à quelque chose de dire aux jeunes comme ça, n'ayez pas peur, vous verrez bien. Encore faut-il expliquer pourquoi il peut y avoir des raisons de ne pas avoir peur. Je vous l'ai dit, la réponse, on la trouve en partie dans Matthieu, dans ce chapitre sur les soucis, où il dit, écoutez, à chaque jour suffit sa peine, vous verrez bien. Et il dit parce que, en fait, les conditions matérielles de votre vie, c'est ce que dit Jésus dans cet évangile de Matthieu, les conditions matérielles de votre vie, en fait, ne sont pas les choses les plus importantes du monde. Alors là, je mettrai à dos évidemment les parents qui poussent les enfants à faire des études, mais je vais vous le dire, que vous réussissiez vos études ou pas, ça ne vous empêchera jamais d'être quelqu'un de bien, ni d'aimer, ni de vivre pleinement votre vie, ni d'être heureux, ni de vous accomplir. Et c'est vrai pour tout le reste, que vous viviez ici ou ailleurs, vous pourrez toujours trouver un sens à votre vie. Parce que les conditions matérielles de notre vie sont peut-être une des choses les moins importantes de notre existence. Et j'ai la chance, moi, en tant que pasteur, de voir tous les niveaux de la société, tous les niveaux de richesse, de réussite, de santé, et de voir à quel point la capacité à être bien dans sa peau ne dépend absolument pas de la situation matérielle de sa vie, ou très peu. C'est toujours mieux, comme dirait le proverbe, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, hein. Je ne dis pas le contraire, mais qu'en tout cas, il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça. Et donc, n'ayez pas peur, comme le dit le Christ, les choses matérielles, le boire, le manger, le vêtir, tout cela, ce sont les païens qui le cherchent ou qui le craignent. Vous, vous savez que vous êtes beaucoup plus que tout cela. N'ayez pas peur pour votre vie. Il y aura toujours pour vous une vie belle, épanouie, profonde, enthousiaste à vivre. Si vous cherchez non pas tant les choses terrestres que les choses célestes, et si vous êtes en quête des trésors qui sont dans le ciel, et si vous apprenez à vous dépréoccuper de ce qui est sur terre, et si vous cherchez non pas ce qui nourrit le corps, mais ce qui nourrit votre âme. D'ailleurs, de ce côté-là, Jésus n'a jamais cherché à adorer la pilule, comme on dit, en disant que si on croyait en Dieu, on n'aurait que des avantages matériels. Il fait le contraire. Il dit, vous savez, si vous êtes fidèle, vous allez en baver. Vous serez persécuté, vous serez rejeté, vous serez mis à mort ou je ne sais quoi. Donc, il dit, il annonce même des difficultés supplémentaires. Mais il dit aussi, ce verset magnifique qu'il y a dans Jean, Jésus dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des difficultés dans le monde, mais prenez courage, car moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Vaincu le monde, enfin, le monde matérialiste, le monde des méchants qui se sont dit, on va tuer Jésus, ça va tout arrêter. Il a montré que ça n'arrêtait rien, que ces méchants ont échoué, que le mal ne gagne pas. Ou encore, dans ce si beau passage de Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, où Paul dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la vie, la mort, les tribulations, l'épreuve, le haut, le bas, les archanges, les machins, les dominations? Non. Paul dit, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ni la vie, ni la mort, ni rien. On a là un trésor indéfectible. Alors bon, cela dit, j'ai conscience que du coup, je prêche une sorte je dirais, d'alternative, de contre-monde, c'est-à-dire de refuge dans une dimension spirituelle pour ne pas avoir peur du matériel en s'en détachant, comme s'il y avait d'un côté le terrestre et de l'autre côté le céleste, d'un côté la science, de l'autre côté la foi, d'un côté le journal télévisé qui nous déprime et d'un autre côté la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et donc faudrait-il seulement apprendre à se détacher du monde matériel pour chercher les choses célestes? Oui, en gros quand même, oui. Oui, oui. Mais je laisse la porte ouverte quand même sur le fait que je veux bien quand même que Dieu ne soit pas totalement étranger au cours du monde et que même si Dieu ne gère pas en détail tout ce qui se passe dans le pays, néanmoins, je crois qu'il y a quand même une providence globale et fondamentale pour le monde et dans laquelle nous pouvons avoir confiance. En tout cas, et ça j'en suis certain, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls. Ça c'est important parce que jusqu'à présent, la solution que je vous ai donnée, elle est quand même, je dirais, très volontariste. Je dis, attention, prenez garde de ne pas vous attacher aux choses matérielles, n'oubliez pas d'aller chercher les choses d'en haut, apprenez à vous détacher comme si la solution ne dépendait que de vous. Et là, j'ai eu tort sur ce point, parce qu'en fait, ce n'est pas juste un devoir de ce que nous ayons à apprendre à faire cela. Je crois, moi, dans un Dieu qui vient lui-même à nous pour nous accompagner et nous aider. Certes, si vous n'êtes pas des grands mystiques, ce qui peut arriver, l'Écriture, notre Bible, est importante parce qu'elle nous montre, elle met les choses en perspective et nous apprend ce qui vaut, ce qui ne vaut rien, et bon, permet d'anticiper, de positionner notre vie, notre façon d'une vie juste. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Et moi, je crois dans un Dieu qui vient à nous et qui nous accompagne, et qui nous donne une véritable force, qui nous, une force, une super force, un super pouvoir, qui permet pour nous d'être plus fort que tout ce qui peut nous arriver. Et qui peut nous donner toute la force nécessaire, l'espérance dont nous pourrions avoir besoin pour toujours avancer dans la joie et dans la confiance. C'est ce que dit Jésus encore, ce verset que j'aime beaucoup, tellement il est doux et tendre. Dans Luc, il dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc le royaume, c'est-à-dire la paix en Dieu, c'est pas quelque chose à gagner, comme s'il fallait s'élever spirituellement, juste comme au sommet d'un mât de cocagne pour aller décrocher le saucisson qui est en haut de la paix spirituelle. Le royaume, il n'est pas à gagner, il est donné. Donc c'est ce Dieu qui s'approche et qui nous donne sa force, sa consolation, sa tranquillité, son espérance et sa paix. Il est vrai que le tout, c'est de savoir reconnaître les dons de Dieu quand ils se présentent, de reconnaître les sources, les voies de vie que Dieu ouvre sans cesse devant nous. Et notre foi consiste peut-être en cela, de pouvoir dire « Je crois que dans toute situation, il y a une route de vie qui m'est ouverte par Dieu et qu'il m'appartient d'apprendre à reconnaître pour y avancer avec confiance, accompagné de cette force infinie, de joie, de paix, de force, de confiance qui se trouve dans mon Père céleste. Amen. »